Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et le journal de la nuit, c'est avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Vers une évolution majeure dans le contrôle des policiers, Emmanuel Macron veut mettre en place un contrôle indépendant. Il sera assuré par une délégation parlementaire, information Europe 1 et explications à suivre. Premier interrogatoire d'Alexandre Benalla à l'ouverture de son procès. L'ancien chargé de mission de l'Élysée doit répondre notamment de violences sur des manifestants le 1er mai 2018. Récit de cette première journée d'audience dans un instant. Nous serons aussi en Gironde, un enfant de 7 ans privé de cantine et raccompagné par la police pour des impayés. La mairie assume sa décision et ce soir, la défenseur des droits annonce ouvrir une enquête. Attention, un poste peut en cacher un autre. Plus d'un quart des influenceurs font de la pub cachée sur les réseaux sociaux. Le régulateur demande la transparence sur les partenariats avec les marques. Un point météo complet à la fin de ce journal. Les orages reviennent, vous dira Marlène Duray. Vous retrouverez bien sûr Top à Wall Street avec Didier Hamot. L'invité écho ce soir, Guillaume Husson du syndicat de la librairie française. On parlera de la bonne santé du secteur du livre en cette rentrée littéraire. Et puis comme chaque soir, un coup d'œil sur les unes de la presse demain matin.
Europe 1.
L'Élysée promet du changement dans le contrôle du travail de la police. Emmanuel Macron en dira plus demain à Roubaix, mais on sait déjà que le président veut mettre en place un contrôle indépendant des forces de l'ordre. Réponse aux critiques contre l'IGPN, la police des polices. C'est une information Europe 1, ce contrôle sera assuré par une délégation parlementaire, Jacques Suret.
Oui, c'est demain midi qu'Emmanuel Macron annoncera la mise en place de cette nouvelle délégation parlementaire. Quand l'Élysée parle aujourd'hui de nouveaux contrôles externes et indépendants des forces de l'ordre, c'est de cette délégation qu'il s'agit. Des députés, des sénateurs qui constitueront une nouvelle entité à l'image de la délégation parlementaire au renseignement déjà existante. Alors l'IGPN, la police des polices, ne bouge pas, elle n'est pas supprimée, mais le président veut un nouvel outil de contrôle. L'idée serait de confier les dossiers où il y a des soupçons d'usage excessif de la force à ces parlementaires et contrairement à une commission d'enquête telle que cela peut déjà exister de manière temporaire, cette fois les députés et sénateurs se spécialiseraient sur ces questions mais de manière permanente. Ils pourront accéder par exemple aux procédures administratives à l'encontre d'un policier tout en ayant un certain devoir de réserve pour ne rien divulguer. Mais si Emmanuel Macron s'apprête à faire cette annonce, c'est encore loin d'être effectif car pour créer une nouvelle délégation parlementaire, il faut d'abord l'accord des deux présidents de chambre, Assemblée et Sénat, et puis une loi. Bref, ce ne devrait pas voir le jour, au mieux avant 2022.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les premières explications d'Alexandre Benalla au tribunal de Paris, 3 ans après l'affaire qui avait secoué l'Élysée. L'ancien chargé de mission comparé pour avoir brutalisé des manifestants le 1er mai 2018, mais aussi pour avoir utilisé frauduleusement un passeport diplomatique. Première journée d'audience consacrée au parcours d'Alexandre Benalla, propulsé avant l'âge de 30 ans au cabinet du président Marion Dubreuil.
Oui, Alexandre Benalla, costume sombre, jambes écartées et mains jointes à la tenue d'un agent de sécurité à la barre. Dès le début de son audition, l'ex-chargé de mission de l'Élysée revient sur le choc de sa première garde à vue pour les violences du 1er mai. J'étais surpris, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de positif pour la société. Je venais d'interpeller des délinquants. Derrière lui, le couple en question qui s'est constitué partie civile a du mal à retenir son exaspération. Alexandre Benalla a toujours rêvé d'être commissaire de police. Lycéen, il joue au rugby avec des gendarmes et rejoint la réserve de la gendarmerie dès sa majorité. En parallèle, il est agent de sécurité privée au Parti Socialiste. Comment faites-vous pour cloisonner ces deux activités, lui demande la présidente. C'est plus un problème de planning que de déontologie, répond Alexandre Benalla, qui ajoute « La grande différence, c'est la tenue ». Le trentenaire a réponse à tout et se plaît à retracer sa carrière. La campagne présidentielle de François Hollande en 2012, la meilleure expérience de ma vie. Et puis celle de Macron en 2016, en tant que directeur de la Sûreté et la Sécurité. Mon rôle, c'était de régler les problèmes. Un poste sensible pour lequel Alexandre Benalla demande un port d'armes à plusieurs reprises, refusé en dehors des locaux de La République En Marche. Or, sur un selfie pris en avril 2017, il exhibe une arme dans un restaurant. Alexandre Benalla assure de nouveau que c'est un faux pistolet. Ce n'est pas l'avis de la juge d'instruction. Et pour ce délit, il encourt aujourd'hui jusqu'à 7 ans de prison.
Marion Dubreuil au Palais de Justice de Paris. La défenseure des droits ouvre une enquête sur la situation d'un enfant de 7 ans raccompagné chez lui par la police pour 800 euros de cantine impayée. On est à Saint-Médard-de-Guizière, à 50 km de Bordeaux. L'élève n'a pas eu accès à la cantine scolaire. La maman dénonce la méthode, la mairie assume. Marion Gauthier, ce sont donc deux voix qui s'opposent.
Oui, l'une et l'autre disent avoir été insultées, s'accusent de mensonges. Reste que jeudi, à l'heure de la cantine, un petit garçon de 7 ans est sorti de l'école accompagné par un policier. Une image qui ne quitte pas sa mère, célibataire, sans emploi. Elle a vu se creuser sa dette depuis 2019.
Je suis en tort, je le reconnais. Ce qui me révolte, c'est pour mon fils. On l'a humilié lui, alors que lui en soi, il est pour rien. Le midi, à l'heure où il y a tous les enfants, les parents, oh, la prison. Parce que bon, on répète aux enfants que la police arrête les méchants, la police arrête les voleurs, quoi. Donc, c'est traumatisant pour lui.
800 euros, plus de 300 repas non réglés, admet la maman. Les impayés de cantine et de périscolaire s'élèvent à près de 17 000 euros pour le village. Je n'avais pas d'autre solution, répète Mireille Comte-Jobert, la maire de Saint-Médard-de-Guizières.
Elle a été depuis de nombreuses années sollicitée pour régler sa dette. Elle n'a jamais répondu à nos courriers, d'où cette réaction ultime de façon à faire en sorte que cette aggravation s'arrête.
L'édile assume jusqu'à la méthode employée. La mère de famille, elle, dit avoir promis avant l'incident le remboursement de la moitié de sa dette, un premier paiement attendu ce mercredi.
Oui, à la défenseur des droits, c'est donc auto-saisie de cette affaire. Claire Hédon rappelle que les enfants doivent être laissés à l'écart des conflits entre leurs parents et l'administration. La Ligue de défense noire africaine est une organisation raciste, estime Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur demande sa dissolution. Il dénonce des troubles à l'ordre public, comme ce week-end à Val-de-Reuil en Normandie. Le maire enfariné, son adjointe bousculée en plein mariage. Des élus pris pour cible, c'est l'incident de trop. Alexandre Chauveau.
Oui, samedi dernier, 30 à 40 personnes s'introduisent dans la mairie de Val-de-Reuil. Elles sont présentes à l'appel de la LDNA qui manifeste après une semaine de tensions entre les communautés kurdes et sénégalaises de la ville. Alors la Ligue de défense noire africaine, c'est une organisation créée en 2018 qui se donne pour mission de lutter contre ce qu'ils considèrent comme de la négrophobie et qui se distingue par des actions radicales. En 2019, par exemple, elle empêche la tenue d'une pièce de théâtre à la Sorbonne pour dénoncer l'utilisation du blackface, pratique qui consiste à se grimer le visage en noir et jugé raciste par la LDNA. Plus récemment, le groupuscule appelle à déboulonner plusieurs statues à Paris, dont celle de Colbert, auteur du Code Noir. Son président déclare alors « L'État français est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste et colonialiste », des propos qui avaient fait bondir les responsables politiques à l'époque, Éric Ciotti ou Marine Le Pen notamment, qui avaient réclamé sa dissolution. Appel entendu donc par Gérald Darmanin après la nouvelle action du week-end dernier. Le ministre de l'Intérieur qui a déjà procédé récemment à d'autres dissolutions d'associations jugées extrémistes, comme le CCIF, Baraka City ou Génération Identitaire.
Alexandre Chauveau, Éric Zemmour n'aura plus d'émission sur CNews. Le chroniqueur n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais son temps de parole est désormais décompté dans les médias audiovisuels. C'est une demande du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Steve Briouat, vice-président du Rassemblement national, sera jugé pour complicité de provocation publique à la discrimination. L'eurodéputé RN Jean-François Jalc, lui, pour provocation à la discrimination. En 2014, le RN avait publié un guide de l'élu municipal, guide qui recommandait la priorité nationale dans l'accès aux logements sociaux.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Il aura fallu une enquête tentaculaire pour aboutir au procès des attentats du 13 novembre 2015. Pour cette deuxième semaine d'audience, des enquêteurs se succèdent à la barre. Premier témoin, le chef adjoint de la sous-direction antiterroriste qui, pendant 4 ans, a coordonné cette enquête d'une ampleur inédite, Gladys Lafitte.
Oui, d'abord parce que l'ASDAT a déjà une charge de travail énorme en cette veille d'attentat avec 52 enquêtes terroristes ouvertes. Et puis le 13 novembre surviennent ces attaques inédites par leur ampleur et leur sophistication, dit le commissaire à la barre. En 37 minutes, 6 lieux sont attaqués. Pour les enquêteurs, c'est alors une course contre la montre. L'organisation est un défi à relever alors que chaque minute compte, revit le commissaire. Sans regarder ses notes, il décrit par cœur le rouleau compresseur qui se met alors en place. D'abord, les constatations sur les scènes de crime en simultané, des scènes indicibles de désolation pour les policiers, dit-il, qui sont confrontés pour la première fois à des kamikazes. Le jeune commissaire raconte ensuite comment ils identifient les terroristes et leurs complices et le nombre d'informations qu'ils doivent vérifier pour y parvenir. Rien que sur le numéro vert, 17 897 appels ont été reçus. Seuls 2 renseignements seront décisifs. Un récit aussi dense que l'enquête, ce qui ne semble pas plaire à Salah Abdeslam qui a tenté de couper la parole. Une fois de plus, le président lui a intimé l'ordre de se taire sans lui ouvrir le micro, le menaçant de l'exclure du box.
Gladys Lafitte au procès des attentats du 13 novembre. Attention à la publicité dissimulée sur les comptes des influenceurs. Ces stars des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, souvent payées par des marques pour pousser un produit, en principe en toute transparence, sauf que plus d'un influenceur sur quatre fait de la promotion déguisée, relève le gendarme de la pub. Or, il s'agit d'une pratique illégale, Clément Le Saffre.
Oui, le monde des influenceurs a longtemps ressemblé au Far West, mais depuis quelques années, il y a des lois qui encadrent les partenariats entre les marques et les stars des réseaux sociaux. La règle est simple, dès lors qu'une marque finance un contenu, l'influenceur doit le mentionner explicitement. Alors ça peut être une indication visuelle, un hashtag sponsoring par exemple, ou bien une présentation orale comme dans cette vidéo des youtubeurs McFly et Carlito.
Et pour ces matchs, regardez, on a des beaux maillots floqués avec nos noms et nos numéros derrière, mais aussi avec un vrai sponsor comme les vrais matchs.
Donc c'est le leader du pari sportif en ligne. Évidemment, vous connaissez pour la partie poker, mais il y a aussi le foot, le basket, plein de sports.
Problème, tout le monde n'est pas aussi explicite. Selon l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, sur les 30 000 contenus passés au crible, 26% ne font pas de référence claire au partenariat. C'est particulièrement le cas pour les petits influenceurs, ceux qui débutent. Pourtant, les sanctions sont lourdes, jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Alors pour y remédier, l'autorité lance un certificat de l'influence responsable, une sorte de guide à destination des influenceurs pour leur apprendre les règles légales lors de leurs interactions avec les marques.
Clément Le Saffre, ce lundi a sonné l'heure de la rentrée universitaire. 3 millions d'étudiants qui ont retrouvé les amphis, en présentiel donc, après 1 an et demi d'études en solitaire et souvent sans job étudiant, réduit à néant bien sûr par la crise sanitaire. Or, 40% des étudiants cumulent cours et petits boulots, pas toujours simple de concilier les deux. Virginie Rivas s'est rendue dans une start-up qui adapte justement ses horaires. Reportage.
On va faire un petit entretien, c'est assez rapide.
Margot, chargée de clientèle chez Student Pop, reçoit en ce moment plus de 1000 CV par semaine. Les étudiants ont besoin de se faire un peu d'expérience et de se financer après une année très compliquée. Alexandre, élève en école d'ingénieur, vient pour un entretien. Avec un prêt étudiant sur le dos, il a toujours travaillé à côté dans la restauration et le soutien scolaire, mais là, il aimerait aussi faire d'autres petits boulots.
Cet argent, oui, il me sert à financer en gros toute la vie qu'il y a autour de mes études et ensuite de mettre un peu d'argent de côté, évidemment, pour la suite.
Et vous êtes prêt à donner combien d'heures par semaine cette année ?
C'est difficile à dire parce que j'ai toujours pas mon emploi du temps, 6-7 heures par semaine en tout cas.
Alexandre ne le sait pas encore, mais il va être retenu. L'activité repart, une bouffée d'oxygène pour Auriel Darmon, cofondateur de la start-up.
La plupart des secteurs ont été complètement désorganisés par le Covid et ils sont prêts à tenter l'expérience avec des personnes un peu moins expérimentées. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les étudiants dans l'hôtellerie-restauration, dans la vente en boutique. Il y a même l'événementiel, il y a de plus en plus de salons qui commencent à se réorganiser. Donc enfin, tous les secteurs reprennent.
Des missions qui peuvent se trouver un peu en dernière minute. Le conseil de cette start-up est donc de taper à des portes, même sans trop d'anticipation.
Un reportage Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. L'Arc de Triomphe a décidé de vous surprendre en cette fin d'été. Dans quelques jours, vous le trouverez tout empaqueté, une œuvre d'art éphémère, création posthume de l'artiste plasticien Christo. Place de l'Étoile, à Paris, on met la dernière touche à cette transformation spectaculaire du monument parisien. Reportage Johanna Chabas.
Les statues et les moulures de l'Arc de Triomphe sont maintenant cachées. Toutes les façades du monument sont recouvertes d'un tissu argenté qui réfléchit la lumière. Des ouvriers suspendus dans le vide inspectent chaque recoin de l'édifice. Au sol, les passants s'arrêtent, prennent des photos. Yves, architecte, adore regarder l'évolution de l'œuvre jour après jour.
Je me suis précipité pour voir avant que ce soit terminé, de voir avec les personnes en train de le monter. Et je trouve que c'est une excellente idée de donner comme ça une image différente de l'Arc de Triomphe. C'est comme si tout d'un coup l'Arc de Triomphe s'habillait, toutes les sculptures et tout ça disparaissent, et ça devient une sorte d'emblème.
Le prix de cette installation, 14 millions d'euros, entièrement financé par la descendance de Christo et par la vente des dessins de l'artiste. Une excellente nouvelle pour Michel.
Je trouve ça extraordinaire, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne coûte rien aux contribuables français. Je pense que pour Paris, après l'année Covid, en plus, ça tombe hyper bien. Ça va peut-être attirer et les Français et les gens de l'extérieur.
Il reste encore 3000 mètres de corde rouge à installer pour que tout soit fini avant samedi, jour de l'inauguration. Et la place de l'Étoile sera piétonnisée durant les 3 prochains week-ends pour que les visiteurs profitent tranquillement de l'œuvre de Christo.
Voilà, rendez-vous donc du 18 septembre au 3 octobre à Paris pour découvrir l'Arc de Triomphe dans son nouvel et éphémère apparat. Il va falloir faire plus, beaucoup plus, aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Message d'Emmanuel Macron qui recevait ce soir les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo. Le bilan n'est pas tout à fait celui que nous attendions, a lancé le chef de l'État aux athlètes, le tout dans la salle des fêtes de l'Élysée. Les volleyeurs français, champions olympiques il y a un mois à Tokyo, ne sont d'ailleurs pas non plus à la fête. Ils ont été éliminés de l'Euro 2021 ce soir dès les huitièmes de finale, battu par la République tchèque 3-7 à 0. Novak Djokovic reste numéro 1 mondial malgré sa défaite hier soir en finale de l'US Open de tennis. Djokovic sèchement battu en 3 manches par le russe Daniil Medvedev. Vous l'avez vécu en direct sur Europe 1. Il devra donc patienter avant de dépasser Federer et Nadal au nombre de victoires en Grand Chelem. Dans le monde du tennis, l'optimisme reste de mise. Djokovic peut le faire, il va le faire, assure notre consultant Cédric Pioline.
Ce qui est important, c'est pas forcément le nombre de fois où l'on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève. Et c'est un grand champion, il a l'habitude de gérer et de digérer ce genre de choses. Franchement, il va s'en relever. Il aura d'autres occasions. Il a une bonne douzaine de grands chelems à jouer devant lui. C'est un grand respect pour ce grand champion. Voilà, pour ce qu'il accomplit. Comme d'ailleurs ces deux copains, si je puis dire entre guillemets, ils ont cette volonté année après année de repousser les limites, leurs limites, pour battre de nouveaux records avec une motivation et une passion du jeu qui est toujours intacte.
Cédric Pioline, consultant tennis d'Europe 1. La météo pour ce mardi, Marlène Duret, on espère que ça ne va pas durer, mais quand même, c'est le retour des orages.
Oui Alexandre, une grande partie centrale de la France sera concernée par des pulsations instables. On a un axe dépressionnaire entre le Portugal et l'Irlande qui va nous insuffler de l'air chaud et humide durant 48 heures avec des cumuls de pluie à surveiller. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'un
Éclairez-nous.
Temps... oui, des éclairs, il va y en avoir. Un temps orageux s'imposera dès le matin sur l'ouest de la Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Champagne, en Île-de-France, dans le centre-Val de Loire, une grande partie de la Bourgogne, et en descendant comme ça jusqu'au Massif central, à la basse vallée du Rhône et au Languedoc. Cette zone va se décaler un petit peu l'après-midi vers la Lorraine, ce qui fait que la Normandie, l'Île-de-France, une partie de la Picardie, la Touraine, le Perche, va sortir de cette zone. Malheureusement, on a une menace orageuse là, qui va pointer le bout de son nez par le nord-ouest, donc on ne sera pas débarrassé de ces averses orageuses, a priori. Et on va surtout surveiller les cumuls de pluie entre le Gard, l'Hérault et l'Ardèche qui peuvent atteindre les 50 à 80 mm et puis sur les contreforts ouest du Massif central, 40 à 60 mm. Les températures, eh bien, elles seront au-dessus des moyennes de saison aussi bien le matin que l'après-midi avec encore 28 à 31 sur la moitié sud contre 21 à 24 près de la Manche, comptez 22 à 27 sur le reste du pays.
Merci Marlène, nouveau point météo avec vous tout à l'heure à minuit. Restez avec nous dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamo, l'invité éco Guillaume Husson du syndicat de la librairie française, alors que le secteur du livre n'a pas trop souffert de la crise. Et puis, les unes de la presse demain matin. A tout de suite.
Europe News. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
On commence avec Wall Street qui débute la semaine dans le calme sans prendre de risques.
Pas beaucoup d'initiatives non ce soir à Wall Street en attendant les chiffres de l'inflation demain aux États-Unis pour le mois d'août. Des chiffres toujours guettés avec la plus grande attention par les opérateurs. Le Dow Jones gagne quand même 0,7%, 0,76% exactement. Exactement, 34 870 points. Le Nasdaq est en baisse légère de 0,06%, 15 106 points. Parmi les valeurs qui bougent un petit peu, Apple, plus 0,4%, 149,55 $ avant la grande présentation demain de ces nouveautés technologiques, toujours très attendues. Microsoft aussi, plus 0,4%, Amazon, moins 0,3%, Facebook, moins 0,5%. Il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler. Peut-être Tesla, plus 0,9% à $743, qui reste ferme. Le pétrole aussi monte au-dessus des $70. Ça remonte à $70,60 le baril WTI en hausse d'1,3% après les propos de l'OPEP toujours très positifs. On a Exxon qui gagne 2,5%. $55,37, Chevron plus 2% à $97,97. Ça ne bouge pas sur les devises non plus. L'euro campe sur les 1,18 face au dollar.
La bourse de Paris a légèrement progressé, elle, avec les valeurs pétrolières.
Oui, plus 0,2%. Le pétrole en appui. 6 676 points sur le CAC 40, donc avec l'aide de tout le secteur pétrolier. L'OPEP, l'organisation des pays producteurs donc de pétrole, a revu en hausse ses estimations de demande de brut sur fond de reprise économique mondiale. De quoi bientôt retrouver les niveaux de demande supérieurs à ceux en vigueur avant le début de la pandémie. Donc ça donne toutes les valeurs pétrolières en hausse, en nette hausse, plus 7% Technip FMC, Morel et Prom, plus 5,5%, Total Energy, plus 3%, 37,75€. Les valeurs parapétrolières, Vallourec, plus 3% à 7,40€ et CGG, plus 3%. On a aussi le secteur automobile qui est bien remonté avec Renault, plus 2,5%, 30€ tout rond, Valeo, plus 2,5%, Faurecia, plus 2%, Stellantis, plus 1% à 16,86€.
L'exception du jour, Didier, c'est Valneva qui a rechuté de plus de 40%.
Une grosse exception. Le laboratoire Valneva qui travaille sur un futur vaccin anti-Covid s'est fait recaler assez sèchement en Grande-Bretagne par le gouvernement qui a résilié l'accord de fourniture qui avait été conclu avec les autorités britanniques. Le laboratoire aurait manqué à ses obligations. Ça donne une chute vertigineuse de 41% ce soir. 11,64€ pour Valneva. Le titre était monté vers les 26€ cet été en bourse. Donc il retombe à 11€ ce soir. Les autres places financières sont en hausse légère, très légère. Plus 0,6 le DAX à Francfort. Bruxelles plus 0,3. Milan plus 0,9%. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,2%. 6676 points.
Merci Didier Hamot. Une rentrée littéraire plutôt sereine pour le secteur du livre qui se porte bien. L'invité écho ce soir sur Europe 1, Guillaume Husson, le délégué général du syndicat de la librairie française, avec Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Guillaume Husson.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le délégué général du syndicat de la librairie française. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est pour parler de la bonne santé du marché du livre, notamment en cette rentrée littéraire. Alors, on n'a pas encore les chiffres là, hein, vraiment de la rentrée littéraire, mais il n'y a pas de raison que la tendance que l'on voit depuis le début de l'année s'étiole. Moi, j'ai été, pour être très honnête avec vous, impressionné. Un tiers de progression par rapport à l'année dernière des ventes depuis le début de l'année, près de 20% si on regarde par rapport à 2019. C'est le fait que nous ayons beaucoup lu pendant les confinements, ça se poursuit.
Écoutez, je vais être honnête avec vous à mon tour. Nous sommes également très impressionnés puisque ce sont des chiffres que les librairies n'ont quasiment jamais rencontrés depuis plusieurs décennies. L'année 2020, finalement, malgré 2 mois et demi de fermeture, s'était terminé à peu près à l'équilibre, ce qui était déjà miraculeux. Et le retour des clients, l'engouement des clients pour le livre et pour les librairies indépendantes ne se dément pas en 2021, effectivement, puisqu'on est même aux alentours de plus 40% par rapport à l'année 2020, alors qu'est une année particulière, donc on se compare davantage actuellement à l'année 2019. Mais par rapport à 2019, on est sur une progression autour de 20%. Qui est totalement inédit dans notre secteur, effectivement.
Mais c'est surtout que, comment ça s'explique? Alors, j'ai vu que c'était en partie grâce à la BD, un public jeune qui a peut-être découvert la lecture pendant les confinements, qui achète en masse de la BD. C'est un des éléments principaux de cette bonne santé du marché du livre?
Oui. Clairement, la BD tire le marché. Alors, la bande dessinée n'est pas le seul secteur qui marche très bien, mais c'est celui qui marche le mieux. On le constate depuis plusieurs années, mais la bande dessinée ne cesse d'améliorer ses progressions. Et à l'intérieur de la bande dessinée, aujourd'hui, en librairie, le manga représente quasiment la moitié des ventes de bande dessinée, qui là est un phénomène tout à fait nouveau, qui s'explique, mais en partie seulement, par la généralisation du pass culture pour les jeunes de 18 ans, puisque les jeunes de 18 ans achètent majoritairement du livre avec le pass culture, il faut le savoir, et majoritairement des mangas. Donc,
qu'est-ce qui marche bien au-delà de ça?
Alors, à l'exception du livre scolaire, tous les secteurs marchent bien, particulièrement la bande dessinée, le livre pratique. On l'a déjà dit au moment de la crise, hein, le télétravail, le fait que les gens soient davantage chez eux, ça a dopé des pratiques, faire la cuisine, faire plus de jardinage ou des choses comme ça. Donc le livre pratique a suivi cette tendance. Mais les sciences humaines, la jeunesse, la littérature ont des progressions exceptionnelles également, puisque on tourne autour de 20% pour tous ces secteurs.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on avait vu et on l'a tous vécu hein, d'une certaine manière à la maison. Quand on ne savait pas quoi faire, on a ressorti un livre de l'armoire, on en a commandé pour pouvoir s'occuper tout simplement. Et on aurait pu se dire, au moment où on retourne au restaurant, au moment où on ressort, tout ça va s'arrêter. On a donc redécouvert tout simplement le plaisir de lire. Vous pensez que ça s'explique aussi simplement que cela?
Alors, je l'espère. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Un engouement pour le livre qui s'est prolongé effectivement après la période de confinement, notamment les premiers retours que l'on a, des premières analyses, notamment des grands lecteurs qui ont lu encore davantage qu'à l'habitude. Et ça, c'est bon pour les librairies parce que ces grands lecteurs, ils achètent majoritairement dans les librairies indépendantes. Et le second phénomène que l'on mesure, que l'on commence à mesurer, c'est un engouement tout particulier pour les librairies indépendantes. Et là, tous les débats qu'il y a eu autour des librairies, commerce essentiel, ont beaucoup joué naturellement. Je pense que les librairies aujourd'hui sont identifiées comme un lieu important dans les villes, un lieu de relations humaines autour des livres, un lieu où on peut rencontrer des écrivains, débattre. Ce qu'on ne peut pas faire en ligne, bien évidemment.
Alors, même si c'est encore trop tôt, hein, puisque la rentrée littéraire vient de débuter, il y a vraiment que quelques jours que les livres sont aujourd'hui disponibles. Alors, comme d'habitude, hein, on bat à chaque fois quasiment des records. Je crois qu'il y a plus de 500 livres en cette rentrée littéraire qui sont disponibles. Les tout premiers chiffres de vente que l'on a, je crois, laissent montrer que ça part très, très doucement. Déjà, c'est votre sentiment aussi, cette rentrée littéraire part doucement ?
Je dirais qu'elle n'a pas encore décollé. On est les tout premiers chiffres qu'on a, qui ne sont pas encore complètement représentatifs, montrent qu'on est sur un chiffre d'affaires stable, hein, par rapport aux deux dernières années. Donc on ne retrouve pas les progressions étonnantes depuis le début 2020. Mais souvenons-nous qu'en 2020, il y avait notamment le livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, qui a été un énorme succès en librairie. Mon sentiment, c'est que la rentrée 2021 est exceptionnelle en qualité, mais elle n'a pas encore trouvé ses locomotives. Il y a des titres qui fonctionnent bien, évidemment, le livre d'Amélie Nothomb, le livre...
Mais ça devient quasiment tellement un rituel qu'on peut presque le mettre de côté.
Oui, mais généralement, le livre d'Amélie Nothomb n'était pas en tête des ventes dans les librairies. Il était troisième, quatrième. Là, il se retrouve, il se retrouve en première position. Voilà, je pense que la rentrée littéraire n'a pas encore complètement pris son rythme de croisière.
Mais si elle ne prend pas dès le démarrage, ça peut s'accélérer après. C'est-à-dire que quand il n'y a pas les quelques locomotives, je crois que l'année dernière, notamment, il y avait le yoga d'Emmanuel Carrère qui avait très vite démarré. Il peut comme ça y avoir quelques pépites et ça prend un petit peu plus de temps.
Oui, oui, ça peut tout à fait, notamment avec les prix littéraires qui vont suivre dans quelques semaines.
C'est ça le vrai démarrage de la rentrée littéraire, dans tous les cas, quand le Goncourt et le Renaudot vont arriver.
C'est le redémarrage, voilà, c'est le deuxième démarrage de la rentrée littéraire.
Du coup, quand on a de telles performances, vous le dites vous-même, hein, Guillaume Husson, vous êtes presque un petit peu étonné. On se dit quoi, ça va être dur de tenir ce rythme de croisière ou au contraire, ça y est, c'est reparti pour des années ?
Je souhaite que ça soit parti sur ce rythme-là pour des années, on verra bien, mais n'oublions pas que les librairies indépendantes ont une économie sur le fil du rasoir chaque année. Hein. C'est le commerce le moins rentable en France, malheureusement. Donc l'embellie que connaissent les librairies est une excellente nouvelle, ça va leur permettre d'investir dans leur lieu, d'investir sur leur site internet, d'investir pour mieux accueillir leurs clients. Voilà, ce sont des capacités d'investissement aussi pour être, je dirais, toujours meilleurs au service des clients.
Merci beaucoup pour tous ces détails, Guillaume Husson. Je rappelle que vous êtes le délégué général du syndicat de la librairie française. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Emmanuel, merci à vous. On vous retrouve demain également de 13h à 14h sur Europe 1 aux côtés d'Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Votre invité sera le patron de la chaîne de prêt-à-porter Don't Call Me Jennifer. Vous parlerez de la relance de cette enseigne destinée en particulier aux ados.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec ce premier petit coup d'œil aux unes de la presse demain matin, rémunération et pouvoir d'achat à la une de vos journaux, la pression monte pour augmenter les salaires, titre Le Figaro. C'est vrai qu'avec le retour de la croissance, les pénuries de main-d'œuvre et les premiers signes d'inflation alimentent les revendications salariales, des revendications qui s'invitent maintenant dans le débat politique. Quitte ou double, titre Libé sur le salaire des profs, avec cette cette proposition de multiplier par deux la rémunération des enseignants, proposition avec laquelle Anne Hidalgo s'est attirée les sarcasmes du ministre Jean-Michel Blanquer, écrit Libé, et les critiques de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, vu les salaires pratiqués dans l'OCDE, conclut Le Quotidien, la mesure mérite d'être étudiée. C'est vrai que la désormais candidate Anne Hidalgo cite souvent en exemple l'Allemagne et les Pays-Bas, nos voisins, où les enseignants sont mieux rémunérés qu'en France. Macron ouvre le dossier police, c'est la une de La Croix demain matin. Le chef de l'État va dévoiler ce mardi à Roubaix un plan de modernisation de la sécurité et des forces de l'ordre. La formation des policiers reste un enjeu prioritaire. On vous a donné ce soir cette information sur Europe 1. Le contrôle indépendant des policiers sera assuré par une délégation parlementaire. Et puis, l'industrie du vaccin à la une des Échos, alors que Londres coupe les ponts avec Valneva. Didier Hamot vous en parlait il y a un instant de cette chute de Valneva sur les places boursières. Un coup sévère pour la biotech franco-autrichienne à quelques jours de sa publication des résultats des essais de phase 3 de son vaccin anti-Covid. Valneva a donc vu son parrain, le gouvernement britannique, annulait cette commande de 180 millions de doses pour 1,4 milliard d'euros, d'où une chute de 40% pour Valneva donc en bourse. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver bien naturellement la libre antenne d'Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Avec le sourire en plus.
Bonsoir
sûr.
Mon cher Alexandre, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Eh bien écoutez, vous l'avez aussi, donc
oui.
Tout le monde sourit ici dans cette radio, donc ça veut dire que tout le monde est heureux ici. Eh bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour de l'info, encore à partir de 23h.
À tout à l'heure
Olivier. À tout à l'heure Alexandre.